Merci Jésus pour cette bonne soirée autour de ta parole. Nous aimons tellement venir autour de ta parole pour nous instruire, afin de savoir comment faire ta volonté pour pouvoir t'être agréable dans l'amour et dans la justice et dans la miséricorde. Merci Jésus. Amen.
Amen.
Alors j'ai les bonnes nouvelles de notre frère Pierre Hamelin qui me dit que ça y est, il a eu son appartement. Il est tout content, nos prières sont exaucées. C'est bien, non? Gloire à Dieu, on est très content. Très content. Voilà, on continue à prier pour notre frère Arthur, pour mon frère, pour la sœur Kawette. On continue à prier pour le frère Régis et pour Daniel aussi, qui est un ami de notre frère Jean-Daniel Perron. Combien de requêtes de prière encore? Enfin, si je n'ai pas dit votre nom, vous êtes sur notre autel de prière, ça vous pouvez en être sûr. On va lire Matthieu chapitre 7, versets 24-27. Je ne sais pas quand Robert rentre d'Afrique.
Demain.
Demain.
2 mars.
Le 2 mars, hein, bon. On continue à prier pour lui pour que tout s'arrange bien. Tout aille bien pour lui. Amen. Matthieu chapitre 7, versets 24 et 27. C'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je le comparerai à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, se sont déchaînés contre cette maison, elle ne s'est pas écroulée parce qu'elle était fondée sur le rocher. Mais toute personne qui entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique ressemble à un fou qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée. Les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison, elle s'est écroulée et sa ruine a été grande. Un fou. C'est terrible, hein? Jésus qui ne veut pas qu'on dise que quelqu'un est raca ou fou, lui. Vierge folle, les fous. Enfin, mais il a le droit, lui. Hein? Amen. C'est une parabole. Jésus n'est pas en train de vous donner un cours de maçonnerie. Hein? C'est une parabole. La maison dont Jésus nous parle ici, c'est notre fort intérieur, c'est notre partie la plus intime, la plus précieuse de nous-mêmes. Et voilà la maison que je dois construire. C'est sur le roc que je dois la construire, la seule base solide, et non pas sur le sable où les intempéries peuvent, ou menacent en tout cas, de tout détruire. Les intempéries, ce ne sont pas seulement forcément les problèmes extérieurs que nous avons, ce sont plutôt, je pense, premièrement nos sentiments, la pluie, les torrents, nos sentiments, et puis nos pensées, le vent, ça. Hein. Nos sentiments, nos pensées peuvent être des assaillants si nous n'apprenons pas à les maîtriser. Il faut que nous apprenions à maîtriser les mouvements de notre cœur et de notre intelligence. Cela dit, il y a une chose certaine qu'il faut absolument savoir, c'est que vous ne trouverez jamais la stabilité, la sécurité intérieure tant que vous resterez dans les régions des sentiments et des émotions. Ça, toutes ces religions émotionnelles, moi je déteste ça de plus en plus. Les régions des sentiments et des émotions, dans ces régions-là, le climat et les conditions atmosphériques ne cessent de changer. Ça ne cesse pas de changer un moment, c'est le soleil qui brille, et c'est un peu comme sur une plage de sable, hein, au bord de la... Ouh là 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 là, on a un problème. C'est un peu comme sur une plage de sable au bord de la mer, et puis vous êtes heureux, et tout se passe bien, et puis tout à coup les nuages arrivent, et paf! Voilà, c'est la tristesse, parce qu'il faut remballer le matos, il faut vite rentrer à l'hôtel, parce que, voilà, il fait plus beau. Un moment vous aimez, et puis un incident se produit, et puis vous n'aimez plus, vous faites plus confiance. Ne plus faire confiance, ça veut dire ce que ça veut dire, ça veut dire ne plus aimer. Hein. Quand quelqu'un vous dit « je te fais plus confiance », c'est que ça veut dire « je t'aime plus ». D'accord. Hein. Un homme, une femme, s'il n'y a plus la confiance, c'est grave, il n'y a plus d'amour. Eh bien dans l'Église, c'est la même chose. Et c'est typique des chrétiens charnels, ils ne sont jamais stables. Jamais stable. On ne peut pas compter sur eux. ne sont pas des gens sûrs sur lesquels on peut s'appuyer. Non, non. Et puis, il y a le monde des pensées. Alors là, ce n'est pas la stabilité non plus. Bon, j'ai vu tellement de gens changer d'opinion si souvent. Je me rappelle particulièrement ce jour magnifique où on a célébré le mariage éternel de Eric et Mélodie, et c'était magnifique. Et il y avait là un sportif qui a rendu un très très beau témoignage, qui est enregistré d'ailleurs, que nous avons, et qui disait que lui aussi voulait cette bénédiction de mariage éternel pour sa femme et pour lui. Et paf, je ne sais pas ce qui a changé, peut-être le poids de sa femme, je ne sais pas. Mais enfin, toujours est-il que quelques semaines plus tard, il avait changé d'opinion et de pensée, je ne sais pas pourquoi. Il a dit que c'était la doctrine qui était fausse. Enfin bon, quand on ne veut pas une chose, on trouve des excuses. Pas de stabilité. Pas de stabilité dans les pensées. Un jour, je pense que, le lendemain, je pense qu'autre chose, je ne sais pas. Je vous ai toujours mis en garde contre les « moi, je pense que, à mon avis, je pense que ». En fait, ce qui parlait le plus dans le ministère de Jésus, c'était ses actes, plus que ses pensées et même plus que ses paroles. Parce que ses paroles, on peut encore les trafiquer. On peut être malhonnête avec, lui faire dire les choses qu'il n'a pas dites. On peut mal les comprendre. Par contre, ses actes d'amour ne peuvent pas être interprétés. C'est posé, c'est là, c'est clair, c'est net. Ce sont des actes d'amour. Et comme lui, il était parfait, eh bien, ses pensées étaient toujours en harmonie avec ses actes. Ça, c'est le modèle à suivre. C'est pourquoi le rocher, c'est Jésus. Construire notre vie sur le roc, sur le rocher, ça veut dire construire sur Jésus-Christ. Lui, il est vraiment solide. Il est balèze. Hein, on peut s'appuyer sur lui, il ne va pas nous laisser tomber. Il est miséricordieux à toujours. Hein, les gens qui disent « Dieu m'a montré que tu n'as pas pardonné ceci, tu n'as pas pardonné cela. » Si je n'ai pas pardonné, ça veut dire que je ne suis pas pardonné. C'est assez bizarre. Hein. Jésus pardonne toujours. Et puis, nous avons fait une règle dans notre communauté, et ça c'est bien, ça nous donne une grande assurance, c'est de régler nos histoires chaque jour, de ne jamais laisser le soleil tomber et sans avoir arrangé les choses. Donc, on peut savoir si on est pardonné ou pas, si on a pardonné ou pas. On le sait au jour le jour. C'est le modèle que Jésus nous a donné. C'est merveilleux comme modèle. Bon, alors évidemment, les intempéries sont aussi des événements de la vie auxquels on ne s'est pas forcément préparé. Hein. On pense toujours que ça arrive aux autres et puis voilà, des fois, il nous arrive des choses. Où est-ce que tu as placé ta maison intérieure ? Sur du sable mouvant de tes sentiments ? Sur le sable mouvant de tes émotions de fillette de 11 ans ? Parce que voilà, c'est ça le problème, c'est que... Bon, on ne peut quand même pas avoir toujours un cœur de midinette, hein. Il faut avoir des émotions qui se virilisent un peu. Ou alors, sur où est-ce que tu as placé ta maison intérieure, sur une colline rocheuse ? Qui permet aussi de voir de loin ce qui va arriver. Parce que quand on est une maison sur la colline, eh bien, on voit de loin les ennemis qui arrivent. Pour pouvoir dominer la situation, hein. Autrefois, les châteaux se construisaient sur des collines. On voit rarement un château construit au fond d'une vallée, hein. Pour pouvoir dominer les situations, il faut être à même de pouvoir aussi changer nos plans rapidement. Mais pas de changer les plans parce qu'on a une idée, parce que je pense que, parce que quelque chose nous traverse la tête, parce qu'on est une girouette, parce qu'on est un chrétien charnel. Non, changer de plan en adoptant le plan de Dieu, la volonté de Dieu. Le roc, c'est la parole de Dieu, pas celle qui forcément est écrite, mais celle qui est révélée. Dieu peut vous révéler quelque chose à vous personnellement. Maintenant, il faut être clair, ça j'ai déjà dit, mais je le redis encore, Dieu ne révèle rien de ce qui concerne la marche de l'Église aux membres de l'Église, c'est-à-dire aux brebis. Ce n'est pas la brebis qui va dire au pasteur ce qu'elle a à faire. Ce qu'il a à faire, ou est-ce que vous avez vu ça, vous? Dieu ne révèle rien en ce qui concerne la marche de l'Église, du moins rien d'important aux membres de l'Église. C'est au ministère que Dieu révèle les choses qui concernent la marche de l'Église. Par contre, Dieu vous révélera des choses qui vous concernent vous-même, qui concernent votre vie personnelle. Ça, il va vous parler, oui, c'est certain. Et il va aussi vous parler de votre vie de famille, si vous êtes un papa ou une maman, pas si vous êtes un gamin de 3 ans, ou rarement, hein. C'est rare que ça se passe comme ça. Parce qu'il y a un ordre dans les choses de Dieu, il y a un ordre établi dans les choses de Dieu. Dieu est un Dieu d'ordre. Le désordre, il est aimé par les dingos. Le désordre, il est aimé par les malades mentaux, les déséquilibrés, par les révoltés de bonté. Hein, le désordre, il est aimé par les soi-disant chrétiens qui infestent les églises, que les pasteurs appellent les fantômes, les gens qu'on voit, puis après on les voit plus. Coucou, un coup t'es là, coucou, un coup t'es plus là. Et puis alors, ils sont sentimentaux. Vous croyez vraiment que Dieu va leur parler comme ça? Ils sont émotionnels. Ils sentent la présence de Dieu. Ah, ils sentent. Ils prennent leur conversation intérieure pour les pensées de Dieu. Ils prennent leurs pensées pour les pensées de Dieu. Mais c'est pas nouveau. Ça a toujours existé. Déjà dans l'Ancien Testament, il y avait des gens comme ça qui prenaient leurs pensées pour les pensées de Dieu. Dieu me parle tout le temps, n'est-ce pas? C'est leurs pensées. Ils ont tout d'un coup, voilà, les trucs. Bon. On aura toujours des pensées bonnes qui peuvent nous parvenir, qui peuvent nous arriver, mais c'est pas forcément Dieu qui nous parle. Faut rester humble un peu, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Dieu m'a dit. Déjà, si c'est un ange, c'est pas mal. Dieu m'a dit. Mes frères et sœurs, nous devons nous installer sur la colline, là où il y a le rocher des âges, et non pas sur le sable. Nous devons nous installer sur le roc, sur Jésus, et sur son ordre établi. Jésus ne va pas sans son ordre établi. Les sablonneux, eux aussi, ils ont un ordre établi. Ils critiquent l'ordre établi des rocheux, ils disent que c'est du nicolaïsme, mais les sablonneux aussi, ils ont un ordre établi, mais il n'est pas selon la Bible, il est selon ce qu'ils pensent que la Bible dit et qui surtout les arrange bien. À quoi est-ce qu'on les reconnaît? Ben, deux choses, à leurs mauvais fruits ou à l'absence totale de fruits. Ils se débattent au milieu des passions, des intrigues, des doutes, des malentendus, des « ah bon, je pensais que, ah bon ». Ils ne trouveront jamais de bonnes solutions, ils seront malheureux et toujours entourés d'une multitude de gens qui leur ressemblent, c'est-à-dire de zinzins. On va trouver dans 2 Timothée 3, 6, 9, Paul parlait déjà de cette sorte de personnes. Il disait « certains d'entre eux s'introduisent dans les maisons et prennent dans leur filet des femmes crédules, chargées de péchés, entraînés par toutes sortes de désirs, qui sont toujours en train d'apprendre, mais ne peuvent jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Jeanne et ses jambres se sont opposés à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité. Ils ont l'intelligence pervertie, ils sont disqualifiés en ce qui concerne la foi, mais ils n'iront pas plus loin, car leur folie sera évidente pour tous, comme l'a été celle de ces deux hommes. » Maintenant, s'ils décident de se transporter dans les régions où règne l'amour, je ne dis pas la faiblesse, parce que l'amour n'est pas faiblesse, et l'intelligence, mais la véritable intelligence, pas cette espèce d'intelligence un peu bizarre, n'est-ce pas? Eh bien, ils pourront maîtriser leur situation et ils auront à affronter la pluie et le vent et leur habitation vraie, réelle, résistera. Mais il faut encore qu'ils aient cette humilité. Alors, voilà ce que vous avez à faire maintenant, vous. Déménager! C'est plus difficile qu'on le croit de déménager. C'est difficile de se dégager affectivement et mentalement et d'être suffisamment humble pour reconnaître qu'on doit s'élever jusque là où Jésus dicte sa loi, c'est-à-dire là où Dieu veut. Un poisson, il ne peut pas déménager dans un pommier sans avoir développé des organes appropriés. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pourquoi les choses prennent du temps. Quand on vit quelque chose pendant longtemps, c'est difficile de changer d'un coup. On devrait pouvoir y arriver, mais c'est tellement complexe. Alors vous pouvez développer des organes intérieurs nécessaires à votre nouvelle vie si chaque jour, par la prière, par la méditation, vous vous efforcez de monter plus haut. Peu à peu, vous allez observer des répercussions de ce travail spirituel que vous faites personnellement sur vos pensées, vous allez voir les répercussions sur vos sentiments, sur votre comportement au quotidien et même sur votre santé. Parce que les ordres sont donnés en haut pour que tout s'organise et pour que tout s'harmonise en vous et pour vous. À partir du moment où vous rentrez dans les règles, dans l'ordre établi par Dieu, la prière, la méditation, la décision d'être miséricordieux, d'aimer, de reprendre, d'avoir le courage d'oser reprendre celui qui a besoin d'être repris. Dieu est appelé le Très-Haut. Et c'est parce que c'est sur les hauteurs que se trouve la véritable puissance. Pas au niveau des mesquineries, de c'est ma tasse, c'est mon couteau, c'est ma fourchette. Ça, c'est vraiment pas à la hauteur du Très-Haut, n'est-ce pas? Alors n'oubliez pas que pour vous, c'est en haut que vous trouverez votre véritable puissance. Occupez-vous de votre vie intérieure. Si d'autres ne veulent pas s'occuper de leur propre vie intérieure, vous avertissez une fois, deux fois, trois fois, puis après vous laissez tomber. Il y a des milliards de personnes sur la Terre, pourquoi focaliser toujours sur les mêmes? C'est en haut que vous trouverez la maîtrise contre les orages et les tempêtes intérieures et extérieures, et donc une sécurité absolument véritable. Et jamais plus les intempéries ne viendront abattre votre demeure. Elles ne pourront pas être abattues si vous remplissez les conditions dans l'ordre tel que je vous les ai décrites, mais je n'ai rien inventé. Tout cela vient de Jésus. Que Dieu soit béni. Amen. Amen. Titi me regarde avec ses belles lunettes et il me voit tout net, tout beau. Et il est en train de se dire, mais il est beau, mon papy, je n'avais jamais remarqué ça. Hein. Voilà, on va prier. Seigneur Jésus, je te remercie pour ces quelques paroles que tu m'as inspirées ce soir. Je te prie qu'elles aillent dans les cœurs qui doivent les recevoir et qu'ils les reçoivent avec humilité, parce que nous avons tous besoin de nous éloigner du sablonneux. Merci Seigneur Jésus, merci de nous y aider, merci de nous donner les forces nécessaires pour pouvoir créer en nous les organes nécessaires pour changer de l'état où nous sommes pour aller plus haut, comme ce petit poisson qui était amoureux d'un oiseau. Eh bien Seigneur Jésus, aide-nous miraculeusement, parce que nous avons besoin de miracles. Nous ferons tous nos efforts, mais nous avons besoin de ton intervention dans nos vies, de ta miséricorde, de ta bonté. Merci Seigneur Jésus. J'ai lu une très belle chose, je voudrais vous la dire. Je l'ai déjà dite à quelques-uns d'entre vous et aussi à une réunion de prière, mais je voudrais la dire aussi sur Internet. C'est pas. Je l'ai trouvé, ça va vous étonner, mais vous savez bien que je ne suis pas un homme sectaire, contrairement à ce que certains disent. Et je viens d'acheter le dernier livre du pape François qui s'appelle Le nom de Dieu est miséricorde. Et il parle. J'en suis qu'à la page 35, je n'ai pas encore été très loin, je l'ai acheté avant-hier. Et je lis un petit bout. J'aime bien méditer ce que je lis, je ne veux pas lire pour dire tiens, j'ai lu ce bouquin en 2 semaines ou en 1 semaine. Non, j'aime bien comprendre, méditer, réfléchir. Et il raconte beaucoup de faits de sa vie privée, de ses propres péchés. C'est un homme, ben, c'est très humble. Et puis à un moment donné, il parle d'un confesseur qui avait un succès fou. Il y avait toujours tellement énormément de personnes qui venaient confesser leurs péchés vers lui. Et un jour, il est allé trouver François avant qu'il soit pape. Et il lui a dit, mais des moments, je me demande si je pardonne pas trop. Et François, donc celui qui est devenu pape, lui a dit, mais quand vous vous posez cette question, qu'est-ce que vous faites? Il dit, ben, quand je me pose cette question, Je vais devant mon Dieu et je prie et je lui dis, Seigneur Jésus, peut-être je pardonne trop, mais en réalité, c'est toi qui m'as montré le mauvais exemple. Et j'ai trouvé ça très 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 beau. On pardonne jamais trop. Qu'est-ce que vous en pensez? Amen. Alors pardonnons les petites mesquineries de fourchette et cuillère. Pardonnons toutes ces petites choses, ces petites bêtises. Allons plus haut et espérons qu'ils nous suivront. Mais s'ils ne nous suivent pas, bah, qu'ils fassent leur chemin, que Dieu les bénisse. Amen. Merci Jésus. Sois béni mon Dieu. Amen.